Exposition biblique, chapitre 7. Mener une vie digne de l'appel. Le lieu de l'appel est la liberté chrétienne. N'est-il pas juste de faire tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Première épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 7. La Bible enseigne qu'il est juste pour une personne croyante de vivre une vie par la foi, en faisant tout ce qu'elle fait pour la gloire du Seigneur. En effet, la foi de celui qui est sauvé du péché ne se limite pas seulement à des activités de foi spécifiques, mais la vie entière de la personne est liée au Dieu juste. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 31 « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cette parole signifie que toutes les actions, petites et grandes, de nos vies ne sont pas séparées de Dieu, mais sont devenues une vie qui rend gloire à Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'actes religieux comme l'adoration ou la prière, mais de la vie d'un pèlerin qui regarde vers le Dieu Sauveur même dans la vie quotidienne et qui vit selon sa volonté. Vivre pour la gloire du Seigneur est, premièrement, une attitude consistant à reconnaître que le centre de la vie est en Dieu. Les gens deviennent facilement ceux qui vivent en suivant leurs propres intérêts, leur honneur ou leurs désirs. Mais une personne qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit vit en croyant que le but de sa vie est dans la gloire de Dieu. Ainsi, même lorsqu'elle choisit un travail, elle en vient à se demander si cela est juste devant Dieu et si cela devient une gloire pour Dieu. De plus, vivre pour la gloire du Seigneur amène à se demander si l'on révèle la gloire de Dieu à travers une vie de foi. Jésus a également dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Une personne qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit choisit la vie de celui qui vit, afin que la gloire de Dieu puisse être davantage révélée par le dévouement de la foi, allant au-delà d'une vie morale. De plus, Colossiens chapitre 3, verset 17, dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Cette parole signifie que toutes nos paroles et nos actions sont liées à la gloire du Seigneur. La foi de celui qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est une vie qui se souvient de la propagation de l'Évangile de Dieu dans tous les domaines et non dans un domaine séparé de Dieu. Une personne qui prend profondément conscience de la grâce du salut accordé par Dieu en vient à vouloir utiliser sa vie dans la direction de rendre gloire à Dieu. En fin de compte, l'enseignement de la Bible est clair. La vie d'une personne croyante n'est pas simplement une vie vécue pour elle-même, mais une vie vécue pour la gloire de Dieu, soit qu'elle mange, soit qu'elle boive ou quoi qu'elle fasse. On peut dire que cette vie de foi est la direction correcte de la foi pour celui qui vit dans la foi en relation avec Dieu. Paul exhorte que pour éviter l'impudicité, chaque homme doit avoir sa propre femme et chaque femme son propre mari, que le mari et la femme doivent remplir leurs devoirs l'un envers l'autre et qu'ils ne doivent pas se priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un court laps de temps, afin d'avoir du temps pour la prière. L'essentiel ici est que le mariage n'est pas un moyen de laver le péché. L'effacement des péchés a déjà pu être reçu comme salut par la foi en croyant au Seigneur sur qui les péchés du monde ont été transférés par le baptême que Jésus a reçu de Jean, qui a subi le châtiment du péché sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Le mariage ne complète pas le salut, mais c'est simplement un mode de vie pour maintenir l'ordre du corps déjà sauvé. N'est-il pas juste d'être lié à Dieu plutôt que d'être lié aux hommes? À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler, 1 Épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 9. Selon l'enseignement de la Bible, il est juste d'obéir à la parole de Dieu plutôt que d'être lié aux hommes, parce que le centre de la foi n'est pas les humains, mais Dieu. Une personne ne peut pas devenir une norme plus grande que Dieu. Et la responsabilité ultime d'une personne croyante est envers Dieu. Les apôtres ont énoncé ce principe très clairement. Dans Actes chapitre 5, verset 29, Pierre et les apôtres disent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». À cette époque, les chefs religieux ordonnaient aux apôtres de ne pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais les apôtres ont déclaré que suivre la volonté de Dieu est plus important que les commandements humains. De plus, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» et dit que s'il était quelqu'un qui cherche à plaire aux hommes, il ne pourrait pas être un serviteur de Christ. Cette parole montre qu'une personne de foi ne doit pas vivre liée par l'évaluation ou la pression humaine, mais doit vivre par la foi pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu. Être lié aux hommes signifie souvent un état où l'on considère les exigences humaines comme plus importantes que la volonté de Dieu en raison de la reconnaissance, de la peur, de l'autorité ou des relations humaines. Cependant, être lié à Dieu ne signifie pas un sentiment d'oppression, mais désigne une vie de foi appartenant à Dieu. Une personne appartenant à Dieu essaie de choisir le chemin de la foi qui plaît à Dieu. La norme de cette foi est toujours de suivre et d'obéir à la parole de Dieu. Bien sûr, la Bible n'enseigne pas d'ignorer les gens ou de traiter les relations à la légère. La Bible enseigne de se respecter et de s'aimer les uns les autres et de maintenir l'ordre au sein de la communauté. Cependant, toutes ces relations et cet ordre de foi doivent également être accomplis dans le but de la propagation de l'évangile de Dieu. Si les exigences humaines entrent en conflit avec la volonté de Dieu, une personne de foi doit faire le choix de la foi en croyant en Dieu. En fin de compte, le centre de la vie d'une personne croyante est clair. Ce n'est pas vivre lié à l'évaluation ou aux exigences humaines, mais vivre selon la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu en tant que personne appartenant à Dieu. C'est la direction correcte de la foi dont parle la Bible et l'apparence de la foi vivant dans une relation avec Dieu. Bien que Paul recommande le célibat, il clarifie immédiatement la limite de cette recommandation. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Le célibat n'est pas une forme supérieure de spiritualité, et le mariage n'est pas non plus la marque d'un niveau de foi inférieur. Au sein de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le statut de tous les croyants est égal, et ils ne diffèrent les uns des autres que par les dons qui leur ont été accordés. Ne devrions-nous pas agir selon le bénéfice du salut des âmes? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Première épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 16. Selon l'enseignement de la Bible, il est juste pour une personne qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de choisir la direction de ses actions et de sa vie selon le bénéfice du salut des âmes. En effet, l'une des missions les plus importantes que Dieu a confiées aux humains doit être une vie liée à la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve les âmes humaines. L'apôtre Paul a clairement énoncé la norme de sa vie. Il dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 33 « De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient tous sauvés. » Paul considérait le bénéfice du fait que de nombreuses personnes reçoivent le salut comme plus important que son propre confort ou son profit personnel. De plus, dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 22, Paul dit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Cette parole montre que la norme de sa vie était concentrée sur l'œuvre de sauver les âmes des gens. Pour Paul, la norme d'action n'était pas la simple liberté ou les droits personnels, mais le bénéfice de l'Évangile et du salut des âmes. Cette attitude apparaît également dans la vie de Jésus. Jésus a dit qu'il ne vivait pas pour son propre confort ou son honneur, mais qu'il est venu chercher et sauver les âmes perdues, Luc chapitre 19, verset 10. Le centre de la vie de Jésus a toujours été sous le but du salut des âmes que Dieu le Père désire. Par conséquent, la question importante pour une personne croyante est la suivante. C'est de penser si l'œuvre ou le choix que je suis sur le point de faire est simplement pour ma propre satisfaction ou pour le salut des âmes des gens et le bénéfice de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même lorsqu'une personne de foi utilise sa liberté, elle doit réfléchir à l'impact que cela aura sur la foi ou l'âme des autres. Cependant, cela ne signifie pas une vie consistant à se sacrifier de force, mais cela signifie comprendre une vie pour la propagation de l'Évangile de Dieu. Dieu considère les âmes des gens comme précieuses et veut qu'elles soient sauvées. Par conséquent, une personne qui suit Dieu échappe progressivement à une vie égocentrique et est transformée en une vie vécue selon le but de Dieu. En fin de compte, l'enseignement de la Bible est clair. Une personne croyante ne doit pas agir en se basant uniquement sur son propre profit, mais doit vivre une vie en agissant tout en pensant au bénéfice du salut des âmes et au but de l'Évangile. C'est la direction de vie qui plaît à Dieu et une attitude importante qu'une personne de foi devrait avoir. Paul distingue soigneusement le commandement du Seigneur de sa propre exhortation. Les croyants ne doivent pas se séparer les uns des autres, et si un conjoint non-croyant veut partir, ils ne sont pas liés, et le conjoint croyant exerce une influence qui sanctifie la famille. Le point essentiel est le suivant. Le salut ne dépend pas du fait que l'on maintienne sa vie conjugale. Parce que le salut a déjà été reçu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le mariage n'est pas une condition pour le salut, mais un domaine que ceux qui sont déjà sauvés doivent choisir et gérer de manière responsable. Une vie pour l'Évangile du Seigneur dans la position à laquelle chacun est appelé n'est-elle pas la chose juste à faire? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Première épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 17 à 24. Selon l'enseignement de la Bible, il est dit qu'il est juste pour une personne de servir le Seigneur dans le lieu et la position où Dieu l'a appelé. En effet, Dieu n'appelle pas tout le monde au même rôle mais guide chaque personne pour servir Dieu dans des lieux et des environnements différents. L'apôtre Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 20 que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. À la suite de cela, il exhorte également au verset 24 que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Cette parole nous dit que servir Dieu ne se fait pas seulement dans une fonction spécifique ou un environnement spécial, mais que chaque personne peut servir Dieu à l'endroit où elle a été appelée. De plus, la parole de la Bible compare l'Église de Dieu à un corps et explique que tous les membres ont des rôles différents. Certaines personnes assument l'œuvre d'enseigner, d'autres assument l'œuvre de servir et d'autres aident la communauté d'autre manière. De cette façon, Dieu confie des lieux et des missions différents à chaque personne. L'important n'est pas de savoir si cet endroit semble grand ou petit, mais d'être fidèle à l'endroit que Dieu a confié. Jésus a également dit qu'une personne qui est fidèle dans une petite chose est également fidèle dans une grande chose. Plutôt que de regarder dans quelle position se trouve une personne, Dieu regarde à quel point elle vit avec un cœur tourné vers Dieu à cet endroit. Par conséquent, une vie au service de Dieu n'existe pas seulement dans une fonction spécifique, mais peut également s'accomplir dans la vie quotidienne. De plus, le fait que Dieu ait appelé une personne dans n'importe quel endroit signifie qu'il y a aussi un but de Dieu à cet endroit. Cela peut ressembler à un endroit ordinaire aux yeux des humains. Mais Dieu peut travailler à travers la personne à cet endroit et l'amener à exercer une influence de foi sur d'autres personnes. Par conséquent, une personne qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit devrait accepter sa position comme un lieu donné par Dieu plutôt que de la prendre à la légère et essayer de propager l'évangile de Dieu en son sein. En fin de compte, le principe dont parle la Bible est clair. Dieu appelle les gens dans des lieux respectivement différents et il est juste pour une personne croyante de vivre en servant Dieu dans ce lieu d'appel. L'important n'est pas la taille du lieu, mais le cœur de loyauté envers Dieu dans ce lieu et le lieu d'une vie de foi. Lorsqu'elle vit ainsi, la vie de foi de cette personne devient une vie que Dieu utilise. Boll présente un principe qui pénètre tout ce chapitre. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Toute distinction sociale ou religieuse, telle que circoncise ou incirconcis, esclave ou personne libre, ne peut déterminer le salut. Parce que le salut a déjà été accompli dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Comme le déclare le texte, vous avez été rachetés à un grand prix. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de lutter pour changer sa situation actuelle afin d'obtenir le salut. Le salut ne change pas. La situation actuelle devient plutôt ce bon endroit pour servir le Seigneur. N'est-il pas juste de fixer la direction qui plaira le plus à Dieu dans les circonstances actuelles et de se décider ? Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Première épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 25 à 31. Selon l'enseignement de la Bible, trouver la direction qui plaira le plus à Dieu dans les circonstances actuelles et se décider est une attitude très juste. En effet, la foi ne reste pas simplement dans les pensées ou les émotions, mais est profondément liée au fait de discerner la volonté de Dieu dans les situations de la vie et de fixer son esprit dans cette direction. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 10 « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Cette parole signifie qu'une personne croyante doit avoir une attitude de cœur qui essaie de discerner ce qui devient une joie pour Dieu dans sa propre situation. Une vie consistant à croire et à suivre Dieu n'agit pas simplement par habitude, mais commence par une attitude consistant à essayer de trouver la direction de foi qui plaît à Dieu. De plus, Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Cette parole signifie que plutôt qu'une personne prenne des décisions en ne suivant que ses propres pensées, lorsqu'elle reconnaît la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu et fixe la direction de la propagation de l'évangile, Dieu guide ce chemin. Trouver la direction qui plaira à Dieu dans les circonstances actuelles inclut plusieurs attitudes importantes. Premièrement, ce n'est pas prendre des décisions basées uniquement sur ses propres désirs ou émotions. Les gens peuvent être facilement ébranlés selon la situation, mais une personne qui croit et suit l'évangile de Dieu essaie de penser si son choix est juste devant Dieu. De plus, c'est jugé par la norme de la foi qui croit en la parole de l'évangile de Dieu. Parce que la parole de Dieu devient la norme pour juger la direction de la vie, une personne qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit en vient à réfléchir à ce qu'est la volonté de Dieu. Et l'attitude consistant à se décider est également importante. Une vie de foi ne consiste pas à vivre avec un cœur constamment ébranlé, mais exige une détermination à établir le cœur dans une direction, tout en faisant confiance à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu. Lorsqu'il y a une telle détermination de cœur, la direction de la vie est également clairement fixée. En fin de compte, pour une personne croyante, trouver la direction de la propagation de l'évangile qui plaira le plus à Dieu dans les circonstances actuelles et fixer son esprit dans cette direction est une expression de foi faisant confiance à Dieu. Cette attitude éloigne la vie d'une personne d'un chemin égocentrique et la conduit vers une vie vécue selon la volonté de Dieu. Paul écrit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, car la figure de ce monde passe. Le mariage ou le chagrin, la joie ou la possession, aucun de ces éléments ne peut être une norme éternelle. Lorsqu'on les considère à travers le prisme de l'évangile de l'eau et de l'esprit, seul le salut est la réalité éternelle et tout le reste n'est qu'une situation passagère. La raison pour laquelle Paul exhorte à ne pas être lié par toutes ces choses n'est pas pour obtenir le salut du péché, mais parce que le salut a été obtenu en croyant en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit déjà reçu. Êtes-vous vraiment quelqu'un qui veut poursuivre le bénéfice de l'évangile de Dieu? Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Première épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35. Si l'on est une personne qui veut vraiment poursuivre le bénéfice de l'évangile de Dieu, la direction de son cœur et de sa vie se tourne naturellement vers la prédication de l'évangile et le bénéfice que les âmes des gens en retirent. Poursuivre le bénéfice de l'évangile signifie une vie où le but et les choix de vie sont liés à la propagation de l'évangile, allant au-delà de la simple reconnaissance de l'évangile avec des mots. L'apôtre Paul a montré ce genre d'apparence à travers sa propre vie. Il dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Pour Paul, la norme de vie n'était pas son propre confort ou son profit personnel, mais dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Par conséquent, selon la situation, il s'abaissait parfois et renonçait à ses droits. De plus, une personne qui poursuit le bénéfice de la propagation de l'Évangile en vient à échapper à une vie égocentrique. Le cœur d'une personne se meut facilement en se centrant sur ses propres désirs ou son profit, mais une personne qui considère l'Évangile comme précieux en vient progressivement à penser d'abord à la volonté de Dieu et au bénéfice des âmes. Par conséquent, elle en vient à réfléchir au genre d'influence que ses paroles et ses actions auront sur la foi ou l'âme des autres. Plusieurs caractéristiques apparaissent chez une personne qui poursuit le bénéfice de la propagation de l'Évangile. Premièrement, il y a un cœur qui considère l'Évangile comme précieux. C'est parce qu'elle sait le fait que l'Évangile n'est pas une simple connaissance ou une doctrine religieuse, mais la puissance de Dieu qui fait que l'âme d'une personne reçoit le salut du péché. Par conséquent, il ne prend pas l'Évangile de l'eau et de l'esprit à la légère. De plus, il essaie de lier le but de l'Évangile de l'eau et de l'esprit au but de sa propre vie. Même lorsqu'il décide des choix et de la direction de sa vie, il en vient à penser aux bénéfices de l'Évangile. Ce n'est pas une attitude consistant à se sacrifier de force, mais cela devient un phénomène qui apparaît naturellement lorsqu'on prend profondément conscience de la parole de l'Évangile du salut que Dieu a accompli. Et une personne qui poursuit le bénéfice de l'Évangile considère la volonté de Dieu comme plus importante qu'elle-même. Le centre de sa vie n'est pas son propre honneur ou son profit, mais l'œuvre de salut que Dieu accomplit. En fin de compte, une personne qui veut vraiment poursuivre le bénéfice de l'Évangile de Dieu ne le fait pas seulement avec des mots, mais la direction de sa vie et de son cœur en vient à se mouvoir en se centrant sur l'Évangile. Dans ses pensées, ses choix et ses actions, l'Évangile devient la valeur la plus importante, et cette vie avance progressivement vers la volonté de Dieu et le but de l'Évangile. La raison pour laquelle Paul exhorte au célibat est-elle basée sur une simple observation « Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, mais celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Ce n'est pas une hiérarchie d'accomplissement spirituel, mais une différence structurelle dans le service. La profondeur du salut est la même pour tous, mais la direction de la concentration sur la propagation de l'Évangile est différente pour chaque cœur. Les justes ont-ils la liberté de choisir pour le bénéfice de Dieu? Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Première épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 36 à 38. Selon les enseignements de la Bible, les justes ont la liberté de choisir pour le bénéfice de Dieu. Cependant, cette liberté de foi n'est pas la liberté de suivre ses propres désirs comme il lui plaît, mais la liberté de pouvoir choisir selon la volonté de Dieu. Une personne qui s'est réconciliée avec Dieu par le salut de Jésus-Christ n'est plus un être lié comme esclave au péché, mais une personne qui a obtenu la liberté de pouvoir servir Dieu par la foi. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5 verset 1 « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Cette liberté n'est pas destinée à rendre une personne indulgente envers elle-même, mais fait référence à la liberté de pouvoir suivre la volonté de Dieu par la foi. Par conséquent, Paul continue et dit ceci dans Galates chapitre 5 verset 13 « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres ». Cette parole signifie que la liberté d'un croyant ne doit pas servir à un choix simplement égocentrique, mais doit être utilisée comme un choix pour la volonté de Dieu et le bénéfice des autres. De plus, dans 1 Épître, aux Corinthiens chapitre 10, verset 23, Paul dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Un croyant a la liberté de faire divers choix, mais cela signifie que lorsqu'il utilise cette liberté, il doit penser à ce qui devient une gloire pour Dieu et à ce qui devient un bénéfice spirituel. Le juste n'est pas une personne qui suit Dieu par la force, mais une personne qui suit la volonté de Dieu par la foi en croyant en la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Dieu n'est pas quelqu'un qui meut une personne par la force, mais il donne la foi et le libre arbitre à une personne afin qu'elle choisisse l'œuvre de Dieu par elle-même. Par conséquent, le juste en vient à choisir tout en réfléchissant à la direction de foi qui devient une joie pour Dieu dans sa propre vie. En fin de compte, la liberté du juste n'est pas une simple liberté personnelle, mais une liberté qui peut être utilisée pour le bénéfice de la propagation de l'Évangile de Dieu. Par ses choix, il essaie de vivre dans une direction qui rend gloire à Dieu et prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à d'autres personnes. Par conséquent, on peut dire que la liberté du juste dont parle la Bible n'est pas la liberté de suivre ses propres désirs, mais la foi de pouvoir choisir la direction qui plaît à Dieu. Dans ce genre de foi, le juste en vient à choisir une vie qui se vit selon la volonté de Dieu. Paul conclut la question du mariage ainsi. Se marier n'est pas un péché, et ne pas se marier n'est pas un péché. La puissance de cette déclaration est puissante. Le mariage n'est ni la preuve du salut, ni la preuve de la perte du salut. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne mesure pas une personne par des normes extérieures, mais la guide par la foi qui croit en la parole de l'Évangile du salut qu'il a donné en Christ. Conclusion finale, la liberté de la foi dans le Seigneur. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu, 1 Épître aux Corinthiens chapitre 7, versets 39 à 40. Paul conclut, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Même la liberté de se marier est dans le Seigneur. Ce n'est pas une restriction, mais l'ordre du salut. Et Paul ajoute une déclaration finale, « Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu ». Toutes les exhortations de foi fournies dans ce chapitre ne sont pas des devoirs légaux, mais une foi découlant de la direction du Saint-Esprit. Le chapitre 7 de 1 Épître aux Corinthiens nous demande aujourd'hui, essayez-vous d'expliquer le salut par les circonstances de votre vie ou choisissez-vous une vie de foi sur le fondement de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit déjà accompli?